Vous êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 14h30 à Paris. Tout de suite, Afrique Midi présenté par Grégoire Morelli. Bonjour Grégoire.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Afrique Midi. Nous sommes ensemble pour une demi-heure avec pour commencer le journal. Alassane Ouattara va-t-il annoncer sa candidature à la présidentielle ce week-end? Son parti, le RHDP, est en congrès aujourd'hui à Abidjan avant un meeting demain. Nous serons en direct de la capitale économique ivoirienne dès le début de ce journal. Et puis, en Guinée, enlevé au milieu de la nuit par des hommes encagoulés, maître Mohamed Traoré a finalement été relâché par ses ravisseurs. Vous entendrez dans ce journal la réaction du président de l'OGDH. Assimi Goïta est attendu à Moscou. Le président de la transition malienne s'y rend pour une visite de 4 jours. Il doit rencontrer demain le président russe Vladimir Poutine. Et puis nous serons aussi en RDC où l'accord de paix avec le Rwanda est prêt. Il ne reste plus que la signature prévue le 27 juin à Washington. Mais l'opposition congolaise a émis certaines réserves sur cet accord, vous l'entendrez. En Côte d'Ivoire, le RHDP, le parti au pouvoir, organise son deuxième congrès ordinaire ce week-end. La réunion a débuté. Près de 7000 congressistes ont fait le déplacement au parc des expositions d'Abidjan pour d'une part procéder à la révision des textes et d'autre part désigner le candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain. À 4 mois de la présidentielle, le parti ne cache pas son souhait de voir le président sortant, Alassane Ouattara, rempiler pour un 4e mandat. Nous sommes en ligne avec notre correspondant sur place, Abdoulaziz Diallo, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment se déroule cette première journée de congrès?
Alors, la cérémonie d'ouverture de ce deuxième congrès ordinaire du RHDP s'est achevée il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant, ici au parc des expositions d'Abidjan, où sont réunis des secrétaires de sections départementaux et des coordonnateurs régionaux venus de toutes les régions du pays. Une cérémonie à laquelle Alassane Ouattara s'est fait représenter par son vice-président, Temoko Meilekone. Dans son discours d'ouverture, ce dernier a rappelé les avancées réalisées dans divers domaines tels que la santé, l'éducation, l'économie, depuis que le RHDP est aux affaires. Le bilan sous le leadership du président Ouattara est plus que positif et sans équivoque, a-t-il lancé avant d'inviter à la continuité. Il nous appartient de porter un projet d'avenir destiné à tous les Ivoiriens, a-t-il indiqué. Le bureau du Congrès a été ensuite installé. Il est présidé par l'ex-premier ministre Patrick Achi. Il est secondé par 3 vice-présidents. Place maintenant aux travaux en commission qui vont aboutir à la mise à jour des textes, l'élection du président du parti ainsi que la désignation de celui qui va porter les couleurs du RHDP lors du scrutin du 25 octobre prochain. Sauf surprise, vous l'avez dit, cette première journée devrait confirmer le souhait émis donc par des milliers de militants et également lors des 47 congrès, pré-congrès organisés ces dernières semaines, celui de voir Alassane Ouattara briguer un autre mandat. De son côté, le président sortant maintient le suspense. Il ne s'est toujours pas prononcé en début d'année. Rappelez-vous, face aux diplomates, Alassane Ouattara disait, je cite, « Je suis en pleine santé et désireux de continuer à servir mon pays », non sans rappeler qu'une demi-douzaine de candidats dans son parti sont susceptibles de prendre la relève.
Les précisions d'Abdoulaziz Diallo, correspondant de RFI à Abidjan. Je vous le disais en titre, maître Mohamed Traoré a été relâché par ses raviseurs dans la préfecture de Koya à la sortie de Conakry. C'est ce qu'indique maître Gabriel Kamano, bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée. Maître Traoré avait été enlevé chez lui cette nuit par des hommes encagoulés. Selon le bâtonnier, maître Traoré a été tabassé et abandonné. Il est désormais en lieu sûr et le bâtonnier et d'autres membres du conseil de l'ordre des avocats lui ont rendu visite. Pour Alseni Sall, porte-parole de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, cette méthode ressemble à ce qu'avait subi l'activiste Abdoul Sakho. Lui aussi avait été enlevé la nuit, tabassé et abandonné à plusieurs dizaines de kilomètres de Conakry.
Aux dernières nouvelles, nous avons appris que Maître Mohamed Traoré a été abandonné par ses ravisseurs dans Bangouya à Koya. Comme Abdoul Sakho d'ailleurs, ça nous rappelle cette triste situation d'Abdoul Sakho. Maître Mohamed Traoré a vécu la même situation que lui, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que Maître Mohamed Traoré a été aussi arrêté avec violence, humilié devant sa famille avant d'être amené. Tout ça, pour nous, ça nous rassure pas. C'est extrêmement grave parce que les avocats sont les sentinelles de la démocratie et de l'état de droit. Ils travaillent pour tout le monde. Et Maître Mohamed Traoré est connu aujourd'hui en Guinée pour ses prises de position sur les pratiques déviantes de la transition. Nous pensons quand même qu'il est important que le barreau de Guinée, l'association des magistrats, et tous les citoyens aient pris de paix et de justice et travaillent à changer cette situation.
Maître Mohamed Traoré était en effet membre du Conseil national, de la transition. Il avait démissionné après l'expiration du délai initial prévu pour la transition. RFI a appris ce matin le décès de son ancienne correspondante à Cotonou, Raïssa Bedji. Notre consoeur est morte à Lyon, en France, ce samedi, des suites d'une longue maladie, selon une source familiale. Dans l'actualité du continent encore, le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, est attendu en fin d'après-midi à Moscou où il effectuera une visite de 4 jours. Assimi Goïta doit rencontrer demain le président russe Vladimir Poutine. Selon le communiqué officiel, cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales stratégiques entre le Mali et la Russie, ainsi que la diversification des partenariats, Serge Daniel.
Le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, entame ce samedi une visite officielle de 6 jours à Moscou. Il est accompagné de plusieurs ministres, dont des titulaires de portefeuilles régaliens. Selon un communiqué publié à Bamako, l'objectif de ce déplacement est de hisser la Russie au rang de partenaire privilégié du Mali. Depuis un peu plus de 4 ans maintenant, le Mali a tourné le dos à la France et consolide de jour en jour ses relations avec la Russie. Au cours de cette visite, les deux pays entendent renforcer leurs liens politiques et diplomatiques. Au programme, il y a également la signature des accords dans plusieurs domaines, l'énergie, l'enseignement supérieur et l'agriculture par exemple. Dans les domaines de la défense et de la sécurité, Bamako a des demandes précises, l'acquisition par exemple de matériel militaire nécessaire pour faire face aux djihadistes sur le terrain, précise un document officiel. La délégation malienne, au cours des discussions, pourrait demander pour plus d'efficacité des réajustements dans les rangs des militaires russes de Africorps qui ont remplacé les troupes de Wagner. Dans le domaine de l'économie, le Mali va proposer encore une fois un partenariat gagnant-gagnant pour l'exploitation de ses ressources minières.
À Kinshasa, à présent, visite du chef d'état-major ougandais. Les armées congolaises et ougandaises ont signé hier un mémorandum d'entente révisé et réactualisé concernant l'opération conjointe à Shujaa, à l'est de la RDC, créée fin 2021 pour éradiquer la menace ADF autour de la ville de Beni, au nord Kivu. Les opérations s'étendront désormais à de nouveaux territoires et à de nouveaux ennemis dans la province de l'Ituri, où le groupe armé de la CODECO continue de sévir. On reste dans le pays, les négociateurs congolais et rwandais, vous le savez, ont signé à Washington mercredi un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Accord qui doit encore être validé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Si l'opposition congolaise a fait part de ses critiques, dénonçant notamment le caractère opaque et non inclusif de cet accord qui viendrait légitimer le pillage des ressources naturelles congolaises, l'accord de paix, lui, est désormais prêt pour le Rwanda. C'est ce que dit à RFI le chef de la diplomatie rwandaise. Les discussions sont terminées et les deux parties se sont entendues sur le contenu du document, a-t-il ajouté. Il ne reste donc plus que la signature prévue pour le 27 juin à Washington, Patient Ligodi.
Le ministre rwandais insiste, il n'y aura plus de modifications au texte. L'accord est finalisé et son entrée en vigueur est prévue immédiatement après la signature. Dès le 27 juin, précise-t-il, certaines mesures devront s'appliquer, notamment la mise en place d'un mécanisme conjoint de suivi prévu dans un délai de 30 jours. Il était initialement prévu que les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame signent l'accord à la Maison Blanche en présence de Donald Trump, à l'image de la tentative de Luanda en décembre 2024. Mais selon nos informations, cette option soutenue par Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique à la Maison Blanche, a été écartée ces derniers jours. Il n'est toutefois pas exclu que les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi se rencontrent. Un sommet est prévu à Washington autour de Donald Trump avec les présidents congolais et rwandais ainsi que d'autres dirigeants africains. S'agissant de l'accord, une inconnue subsiste, les mécanismes de ratification, du moins côté congolais. À Kigali, aucune procédure parlementaire n'est prévue. En RDC, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait annoncé fin mai que tous les accords de paix et de coopération économique feraient l'objet d'un examen parlementaire, mais la session a pris fin il y a 5 jours.
Le Rwanda maintenant, Victoire Ingabire, principale opposante au président Paul Kagame, a été arrêtée ce jeudi. Son arrestation intervient après sa comparution le même jour au procès à Kigali de neuf personnes accusées d'avoir fait circuler le livre d'un écrivain serbe. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes, qui détaille des méthodes pacifiques pour résister à l'autoritarisme. Victoire Ingabire, présidente du parti non reconnu par les autorités d'Alpha où Mourinzi est menacé d'une inculpation pour association de malfaiteurs et incitation publique à s'opposer au gouvernement. Une arrestation qualifiée de cirque politiquement motivé qui n'a rien au hasard par l'un de ses avocats. C'est en tout cas ce qu'il dit, l'un de ses avocats internationaux, maître Ian Edwards.
C'est absolument pas aléatoire que tout ça se passe quelques mois avant la fin de sa peine de 15 ans qui a commencé à partir de son arrestation en 2010. Sa peine allait prendre fin en octobre de cette année. Elle a reçu une grâce présidentielle en 2018. Et elle a cette épée de Damoclès qui est au-dessous de sa tête depuis sa liberté en 2018. Et jusqu'à la fin de la peine de 15 ans, la possibilité existe toujours pour les autorités de dire qu'elle n'a pas respecté les conditions de la grâce présidentielle et donc d'annuler la grâce présidentielle et la remettre en prison pour purger le reste de cette peine.
L'un des avocats de Victoire Ingabire, maître Ian Edwards. Un détour par le Nigeria où une attaque suicide dans le nord-est du pays imputée au groupe djihadiste Boko Haram a fait au moins 20 morts parmi des combattants anti-djihadistes. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP aujourd'hui un des chefs de milice et des habitants. Le marché aux poissons de Kondunga qui a été ciblé est très fréquenté, surtout la nuit. Il a déjà été la cible de nombreuses attaques suicides dans le passé. Direction le Sénégal à présent, des concertations entre le ministère de la Communication et le secteur de la presse ont eu lieu pendant 3 jours. Attendues par les acteurs du secteur depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye, elles ont été l'occasion, ces concertations, de faire le point sur les réformes de fond, mais aussi sur les mesures d'urgence attendues, notamment par la presse privée qui connaît une crise. 200 journalistes et patrons de presse y ont participé. À Dakar, les explications de Léa Lisa Vesteroff.
Urgence de réformer le code de la presse et les lois sur la publicité pour mieux encadrer la presse en ligne notamment. Ces concertations ont surtout été l'occasion de mettre sur la table les problèmes financiers urgents auxquels la presse privée est confrontée et d'appeler l'État à l'aide. Mamadou Ibrakane est le président du patronat de la presse sénégalaise.
Parce que la presse aujourd'hui sénégalaise est au bord de la faillite et si on ne prend pas des mesures urgentes, la presse privée va mourir sous le régime du président Diomaye Diakhare. Failli depuis maintenant plus de 15 mois que nous n'avons reçu aucun subside de l'État. L'État ne nous a payé aucun argent qu'il nous doit. Au contraire, l'État nous a poursuivis pour des dettes fiscales et autres.
Les entreprises de presse privée réclament entre autres que l'État rétablisse les contrats de publicité suspendus depuis 1 an, mais règle aussi ses dettes des 3 dernières années. Des publicités institutionnelles ou des publi-reportages, par exemple, qui n'ont jamais été payés aux médias privés. Réponse du directeur de la communication, Habib Boudia.
Ce qui a été demandé au patronat est de fournir un tableau exhaustif de l'État, des créances dues par l'État. Quels services, quels démembrements doivent quel montant, ainsi que les preuves, c'est-à-dire les bons d'engagement ou bons de commande.
Le ministère de la Communication qui s'est engagé hier a porté les revendications du secteur de la presse au chef de l'État pour trouver une issue à la crise et garantir la viabilité économique du secteur. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Ah oui, vous l'aurez compris, on termine avec du sport. En République démocratique du Congo, le TP Mazembe est dos au mur à l'orée de la dernière ligne droite du championnat. Seulement 4e au classement, à 3 longueurs de la dernière place qualificative pour les Coupes d'Afrique détenues par Maniema Union. Le club de Lubumbashi se doit de faire carton plein lors de ses 3 dernières journées pour espérer ne pas rester à quai cette saison. Problème, ses 3 adversaires seront justement les 3 équipes qui le précèdent. Et cela commence donc dès aujourd'hui, les précisions sur place de Pascal Moingala.
D'abord, le match face à Maniema Union qui passe pour l'actuel classico de RDC selon plusieurs sportifs au pays. Et c'est avec raison à en croire le coach des Corbeaux, Lamine Ndiaye.
L'adversaire n'est pas n'importe qui. C'est notre dauphin de l'année dernière. Une équipe qui s'est bien comportée en compétition intercontinentale. Donc on s'attend à effectivement un match très 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 relevé.
Ensuite, il y aura le derby face à Lopopo qui compte 2 victoires sur les 3 derniers avant le match contre les Aigles du Congo, club révélation de l'année et challenger dans le top 3. Lamine Ndiaye et les Corbeaux doivent être les plus conquérants.
On a du retard, il faut se donner à fond et pas se mettre dans les calculs.
Trois matchs à Lubumbashi, dont deux à Kamalondo, leur temple, le public devrait lui aussi jouer sa partition pour pousser l'équipe à la qualification à l'une des compétitions africaines.
Les publics sont revenus un peu plus nombreux lors du dernier match. On a apprécié. J'espère qu'ils seront là encore plus nombreux pour pousser leur équipe, les porter à la victoire.
Impossible n'est pas Mazembe. Cette devise des Corbeaux est une nouvelle fois mise à l'épreuve. Et c'est tant mieux pour le spectacle et le suspense, soutiennent d'aucuns. Pascal Mangala, Lubumbashi, RFI.
Les Corbeaux qui traînent une sanction d'un match perdu sur tapis vert pour avoir aligné un joueur non éligible. Une décision dont le TP Mazembe a fait appel. À suivre durant les 15 prochaines minutes sur la radio du Monde, Jean-Baptiste Placard reviendra sur les accusations de détournement de fonds qui ciblent l'ex-ministre de la Justice de RDC, Constant Boutamba. Et un peu de sémantique aussi, en ce premier jour de l'été, Lucie Bouteloup s'intéressera à l'histoire du mot « musique » et à la signification que lui donnent ceux qui la pratiquent. Mais tout de suite, on jette un œil à la une de Jeune Afrique cette semaine. La rivalité Tshisekedi-Kabila en République démocratique du Congo. François Soudan, le directeur de la rédaction de Jeune Afrique, est l'invité. Il répond aux questions de Catherine Potet.
Bonjour François Soudan.
Bonjour Catherine.
Romain Gras et Romain Chanson signent ce récit qu'il commence par une histoire de barbe. Un détail pas si anodin qu'on pourrait le croire.
Ah oui, la barbe, c'est une affaire intime, bien sûr, mais si les auteurs de cet article ont choisi de commencer par là, c'est aussi parce qu'elle a une portée symbolique et politique. Vous savez, lorsqu'en décembre 2018, juste avant qu'il ne quitte le pouvoir, j'avais demandé à Joseph Kabila pourquoi il s'était laissé pousser la barbe. Il m'avait alors répondu, c'est la barbe du rebelle qu'au fond, je n'ai jamais cessé d'être. Alors, depuis, sa pilosité a connu diverses variations, mais lorsqu'il est réapparu le 23 mai dernier, pour son premier discours officiel depuis son départ de la présidence, il y avait là le drapeau, l'hymne national et une barbe soigneusement rasée pour laisser place à une simple moustache, comme autant de signes d'une volonté de faire chef pour revenir aux commandes de ce qu'il appelle une nation en détresse. Alors, tout ça, vous me direz, c'est anecdotique, mais il y a un côté justement qui est très personnel, qui est très subjectif dans la démarche de Kabila. Un côté défi, provocation, un côté revanche aussi. Il estime que l'accord électoral qu'il dit avoir conclu avec Félix Tshisekedi en 2018 n'a pas été respecté et il vit manifestement très mal les enquêtes financières sur son entourage, ainsi que la levée de son immunité parlementaire, laquelle ouvre la voie à un éventuel procès par contumace devant la justice militaire, Catherine.
Mais au-delà de ces raisons personnelles que vous venez d'évoquer, François Soudan, que peut-on supposer des objectifs politiques de Joseph Kabila ?
D'abord de se positionner comme un acteur central dans la résolution de la crise politico-sécuritaire et dans un deuxième temps, ce qui est évidemment très loin d'être acquis, revenir aux affaires. Alors il y a deux processus de règlement de la crise de l'Est actuellement en cours. Le premier, qui est porté par l'administration Trump, vise à obtenir la signature à Washington d'un accord de paix RDC-Rwanda qui pourrait être conclu dès la fin de juin. Et le second, piloté par le Qatar, tente laborieusement de faire aboutir des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23. Le problème pour Kabila, c'est qu'il ne figure dans aucun de ces deux processus. Son problème également, c'est l'ambiguïté de ses relations avec le Rwanda et avec le M23. Autant son projet à lui semble être de changer le régime à Kinshasa, autant ceux du Rwanda et du M23 semblent se cantonner à une logique de contrôle des deux Kivu comme zone tampon sécuritaire pour le Rwanda, comme zone d'influence communautaire pour le M23. En fait, Catherine, dans le jeu de Kigali, Joseph Kabila apparaît comme une carte pour faire pression sur Félix Tshisekedi. Rien de plus. Il lui faut donc exister. Ça n'est pas chose facile.
Et cela paraît d'autant plus compliqué pour l'ancien président que son successeur, Félix Tshisekedi, semble lui être en pleine confiance.
Oui, tout à fait. Il est en train de compenser sur les plans diplomatiques, politiques, les revers de son armée sur le plan militaire. Il y a eu l'adoption de la résolution à l'ONU qui demande le retrait du M23 et des forces rwandaises. Il y a eu l'élection de la RDC, membre non permanent du Conseil de sécurité. Au niveau régional, Kinshasa est parvenu à empêcher le Rwanda de prendre la présidence tournante de la CDEAC. Et sur le plan intérieur, il y a eu cette accolade spectaculaire avec Martin Fayoulou et cette ligne de fracture qui semble se dessiner entre une opposition républicaine dite patriotique et une opposition rebelle. Et enfin, Catherine, il y a toujours à Kinshasa l'espoir de conclure un accord minier, pour l'instant hypothétique, avec les États-Unis. Sur ce point, Kabila a d'ailleurs senti le danger puisqu'il a dépêché il y a quelques jours un émissaire à Washington. Pas sûr que ça suffise à le sortir de son isolement diplomatique, Catherine.
Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.
C'était Catherine Potet qui interviewait François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.
Grégoire Morelli.
Et à la une de l'actualité internationale de ce samedi 21 juin, 9e jour d'affrontement entre l'Iran et Israël. L'État hébreu a affirmé avoir tué 3 commandants des gardiens de la révolution et visé un site nucléaire à Ispahan lors de frappes en Iran aujourd'hui. Dans le même temps, un immeuble résidentiel dans le nord de l'État hébreu a été touché par une frappe de drone sans avoir causé pour l'instant de victimes selon les secours. Donald Trump, lui, a averti l'Iran que la République islamique disposait d'un délai maximum de 2 semaines pour décider d'éventuelles frappes américaines. Les États-Unis où le vice-président J.D. Vance estime que la présence de la garde nationale est toujours nécessaire à Los Angeles, et ce malgré le retour au calme depuis une semaine dans la mégalopole californienne où la vague d'interpellations d'immigrés en situation irrégulière se poursuit, mais la ville n'a plus connu de grandes manifestations depuis le week-end dernier. Et une situation très grave, les mots des pompiers croates après un incendie qui a éclaté dans le sud du pays à 40 km de Split, une douzaine de maisons ont été réduites en cendres. Un détournement de 156 millions de dollars imputé à Matata Ponyo, condamné à 10 ans de prison en mai dernier, 50 millions pour Vital Kamerhe, condamné en 2020, puis acquitté en 2022. Et aujourd'hui, c'est Constant Mutamba qui fait face à des accusations de cet ordre, indexé pour avoir détourné 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison. Le garde des Sceaux de la RDC a dû démissionner, privé par l'Assemblée nationale du dernier verrou qui le protégeait. Constant Mutamba est désormais passible de poursuites. Jean-Baptiste Placa, n'est-ce pas là un triomphe de l'état de droit ?
Il faudra sans doute attendre encore un peu pour crier victoire dans cet environnement où les politiques, pour échapper à la justice, débordent de manigances et de subterfuges. Parce que le courage d'une démission est plutôt rare sous ces latitudes, la décision du ministre en soi est une excellente nouvelle. Les politiciens ont une fâcheuse tendance à se cramponner aux postes et aux privilèges, même lorsqu'ils ont atteint leurs limites, ou qu'ils ont simplement échoué. Même compromis ou discrédités, ils n'aiment pas céder la place à plus valeureux qu'eux. Et cette propension à se croire propriétaire à tout jamais des fonctions qui leur sont confiées pèse de son poids mort dans la difficulté pour l'Afrique à avancer, à se développer. Certes, Constant Mutamba aurait pu prendre les devants sans attendre d'être désavoué par l'Assemblée nationale. Il aurait ainsi préservé sa dignité plutôt que de s'épuiser à quémander une bouée de sauvetage du chef de l'État à coups de serments d'allégeance et de pathétiques assurances de loyauté. On imagine qu'il doit beaucoup à Félix Tshisekedi, qui lui a octroyé à 36 ans un portefeuille d'importance, la justice, avec un rang de ministre d'État que ne justifiait certainement pas son score de 0,20% des voix à la dernière présidentielle.
Et n'est-il pas plutôt flamboyant le bilan qu'il dresse de l'année qu'il vient de passer au ministère de la Justice ?
Il semble tellement flamboyant que l'on se demande si Constant Mutamba a effectivement réalisé tout ce qu'il décrit. Il lui fallait être un pur génie pour réussir en tout juste 13 mois à transformer le champ de ruines du système judiciaire congolais en un tableau si idyllique. À moins que dans son esprit, les grandes ambitions qu'il disait nourrir pour la justice soient d'office considérées comme des projets aboutis dès lors qu'il en a rêvé. C'est un tout aussi authentique exploit que d'être parvenu en si peu de temps à brouiller les traces de 19 millions de dollars. Certes, en matière de détournement de deniers publics, la RDC nous a habitués à une certaine démesure. Et la petite poignée qui finit parfois devant la justice est rarement faite de gagne petit.
Mais à qui donc pensez-vous, Jean-Baptiste ?
Il y a tout juste un mois, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo était condamné avec quelques comparses à 10 ans de prison pour un détournement de 156 millions de dollars. La plus grande frustration des Congolais découle de ce que cet ancien Premier ministre, en 4 ans de saga judiciaire, ne s'est pratiquement jamais expliqué sur le fond. Plutôt que de convaincre ses concitoyens de sa probité, il préférait disqualifier les juridictions saisies dans son affaire. Vital Kamerhe, aujourd'hui 4e personnage de l'État, a écopé de 20 ans de prison en 2020 pour un détournement de quelques 50 millions de dollars. Après une généreuse réduction de la peine, cette affaire a donné lieu en appel à un spectaculaire acquittement que d'aucuns avaient qualifié de politique, alors que se nouaient en 2022 les alliances en vue de la présidentielle de 2023. Ajouté aux 19 millions imputés à Constant Mutamba, cela fait 225 millions de dollars pour seulement 3 figures politiques. En RDC, le peuple vivote en franc congolais, tandis que l'élite politique s'engraisse en centaines de millions de dollars. Les populations y meurent par milliers sur les voies fluviales, les lignes de chemin de fer, les routes et pistes du pays. Elles crèvent autant dans les dispensaires et hôpitaux mal équipés. C'est ici que l'on se met à rêver du nombre de milliers de Congolais qui échapperaient à une mort certaine si ces montants faramineux, plutôt que d'atterrir dans les poches de politiciens indélicats, parvenaient au trésor public.
Jean-Baptiste Placa, cette chronique et toutes les précédentes, bien sûr, vous pouvez les réécouter sur notre site RFI.fr. Qu'est-ce que les mots nous évoquent? Comment résonnent-ils en nous? Des amoureux de la langue française parlent d'un mot qui leur est cher. À Lucie Bouteloup, c'est un mot, une histoire, et aujourd'hui, place au mot musique.
C'est un mot qui m'évoque l'équilibre, le bonheur, la joie, c'est ma drogue.
Chez les Lacaille, jouer d'un instrument, c'est une histoire de famille. René a choisi le sien, l'accordéon. Mais il y a aussi eu la batterie, le saxophone et la guitare. Maître incontesté du Séga moderne et du chant Maloya, René Lacaille fête cette année ses 70 ans de carrière. Et pour l'occasion, il vient de sortir son premier album solo, c'est Tigalé, petit caillou en créole réunionnais. Comme ceux qui peuvent produire des rythmes quand on les entrechoque. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la musique.
Un mot, une histoire. Lucie Bouteloup.
Bonjour René Lacaille.
Bonjour.
Alors de quel mot vous avez envie de me parler?
Musique, c'est mon dada. Ça m'a permis de quitter la Réunion, de faire le tour du monde. Ça fait vibrer les gens de partout.
Qu'est-ce que c'est la musique? Quelle définition vous pourriez donner à ce mot?
L'art d'assembler les sons, ça c'est sûr. Mais rassembler les rythmes aussi, les rythmes de chaque pays. C'est ça qui est magnifique. Et après, moi par exemple, quand il m'arrive de avoir un truc qui va pas, je prends l'instrument et j'ai plus rien. Parce que dès que je joue, j'oublie. Je suis plus avec ma douleur de mon bras, de ma jambe, j'oublie ça. Et donc pour moi, la musique, c'est mon médicament. D'ailleurs, il y a Kassav qui disait...
Ce mot musique, comment est-ce qu'il sonne à vos oreilles?
La Réunion, il dit la musique. Elle dit, où jouez la musique, moi? Voilà, c'est la musique. Là, c'est un mot qui cause bien.
Où qu'on soit dans le monde, on le comprend.
Oui, ah ben oui, facile. Ben déjà, si on comprend pas, si ça joue, déjà, moi je saute sur la table tout de suite. Hein.
Est-ce que ce mot pourrait vous inspirer un titre?
Ouais, c'est un joli petit mot, hein. Ça sonne bien. Hein. Ben j'en ai un déjà, j'ai un titre qui s'appelle « Jouez la musique là ». Joue cette musique là.
Jouez la musique, un affaire magique, mon rouler à caillon bas, coûte un pilori. Jouez la musique, un affaire magique, mon rouler à caillon bas, coûte un pilori.
Les gens, même ils jouent pas de la musique, mais ils ont une façon de parler, pour moi, c'est comme ils chantent, quoi. Ils ont un accent. L'accent en parlant, simplement. Même quand ils parlent, je dis, ah mais on dirait qu'ils chantent du blues, on dirait qu'ils chantent leur blues à eux.
Et quelle est pour vous la plus douce des musiques à votre oreille?
Le pays qui me rend mielleux, c'est quand même le Brésil. Baden Paula, ouais. Vinicius de Moraes, c'est des chamans.
Selon le dictionnaire Larousse, la musique est l'art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons.
C'était un mot, une histoire.
Une chronique avec le soutien de la délégation générale à la langue française.
Et une chronique signée Lucie Bouteloup. René Lacaille, que vous avez entendu, il vient de sortir Tigalé, son premier album solo, et vous pouvez le retrouver sur scène entre le 12 août au festival Les Traversées Tatiou, à Saint-Vaast, La Hougue, ou le 14 août à Bordeaux, chez Alric. Afrique Midi, ça touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir été fidèles. Merci de nous avoir écoutés. À la réalisation aujourd'hui, c'était David Brockway. À la rédaction en chef, Karine Franck. Merci à eux. Le prochain journal, ce sera d'ici, allez, une bonne minute. À présent, vous retrouverez Mathis Limanou. Il vous parlera évidemment de cette 9e journée d'affrontement entre l'Iran et Israël. Il nous parlera également de Wall Street Journal et de la BBC accusée d'avoir un moteur de recherche basé sur l'IA.
Afrique, mémoire d'un continent. avec Elgas.
Je vous amène à Ife, au Nigeria, cité médiévale à l'histoire tout à fait fascinante. Du 11e au 14e siècle, dans ce fief du pays Yoruba, essor d'une grande civilisation. Têtes de bronze, poterie, céramique, pavement urbain, à histoire riche, conflit de récits, je vous raconte.
Afrique, mémoire d'un continent.